même avant, il y avait une remise en question sur mon identité, mais c'était vraiment un cas spécifique qui m'a fait vraiment réfléchir sur ce qui je suis. Je suis quoi, je suis qui dans cette société française qui est totalement différente de la mienne.
Coucou!
Bonjour!
Salut!
Donc, moi je m'appelle Elia, je suis une étudiante curieuse en anthropologie à Lyon 2. J'ai 18 ans et mon papa il est allemand et ma maman elle est française.
Salut les gens, moi je m'appelle Elena, j'ai 19 ans et j'habite maintenant à Strasbourg parce que je fais un service civique à l'université de Strasbourg. Je travaille là avec beaucoup de personnes différentes et quelque chose interculturel de moi, je suis née à Bruxelles.
Moi je m'appelle Antonia et j'ai 20 ans. Je fais aussi un volontariat avec l'Office franco-allemand pour la jeunesse à l'Université Lyon 2. Et j'ai deux nationalités, la nationalité allemande et la roumaine, mais je suis née en Roumanie.
Donc, c'est quoi ce podcast? On le fait dans le cadre d'un partenariat franco-allemand, parce que vous l'aurez compris, on est de différentes cultures, différentes origines. Et ce podcast a pour thème le racisme et le populisme. Nous, dans ce podcast que vous allez écouter, on a décidé de s'interroger sur les effets du racisme sur la construction de l'identité et sur la santé mentale.
On s'est demandé comment les expériences racistes qu'on vit, qui sont peut-être pas forcément des expériences violentes, qui sont peut-être seulement des remarques, ont un impact sur l'intime d'une personne et sur son identité, sur son comportement.
Donc là, on va se demander qu'est-ce que c'est en fait l'identité, de quoi on parle quand on parle de santé mentale. Et le racisme, c'est un sujet qui peut-être revient souvent dans nos discussions de tous les jours, mais c'est quoi la définition qu'on peut donner au racisme ?
L'identité au sens large est d'abord un ensemble de caractéristiques qui permettent de définir une personne. Ce sentiment d'identité est composé de différents sentiments, par exemple des sentiments d'unité, de cohérence, d'appartenance, de valeur, d'autonomie et de confiance organisés autour d'une volonté d'existence. Le concept de l'identité a existé déjà depuis l'Antiquité, mais Erikson était le premier qui a établi alors des distinctions entre identité du moi ou identité égo, identité personnelle et identité du groupe ou social.
Pour parler sur ce sujet, on a invité une experte.
Je m'appelle Christine Morin-Messabel et je suis professeure de psychologie sociale avec une spécialité qui porte sur les relations intergroupes et notamment sur la question des stéréotypes, préjugés et discriminations. Voilà, et je suis aussi vice-présidente égalité, lutte contre les discriminations, Lyon 2. Alors, en psychologie sociale, on travaille sur l'identité avec une dimension individuelle et sociale. C'est-à-dire, alors selon les théories, le pôle identité personnelle, et c'est une forme de continuum. C'est-à-dire, d'un côté, il y a l'individu qui va se penser en termes d'individualité. Et puis, dans certains contextes, l'individu va se définir à partir de ses appartenances de groupe.
Pour explorer ce thème, nous avons interviewé deux étudiantes à l'Université de Lyon 2. Une qui s'appelle Suyan, alias Soso. Elle est coréenne du Sud et elle habite en France depuis 5 ans. Elle fait les études en sciences politiques, option psychologie et anthropologie.
Alors l'identité, c'est vrai que c'est une notion assez difficile à définir. L'identité, c'est quelque chose situationnel, aussi quelque chose qui me définit. C'est très dur de donner une définition fixe, mais par exemple, c'est la tradition ou alors c'est mes origines. Mais les origines, c'est vrai qu'en ce moment, ça ne peut pas être vraiment mon identité parce qu'on ne vit pas vraiment dans un pays d'où on vient. Et il y a la question d'immigration, mais c'est quelque chose de situationnel, c'est-à-dire que c'est les autres qui me définissent. C'est pas moi qui me définit. Donc par exemple, moi je suis étrangère en France, une fille asiatique. Les gens, ils vont m'identifier, elle c'est une fille asiatique, donc elle va avoir ce genre de... peut-être qu'elle aurait ce genre de tradition, peut-être qu'elle a ce genre de mode comportement, etc. Et c'est rare qu'on s'identifie soi-même. C'est vraiment par rapport aux autres qu'on s'identifie.
On a interviewé une autre jeune femme qu'on appellera Emma parce qu'elle veut rester anonyme. Elle vient de Madagascar et elle habite en France depuis 3 mois.
Est-ce que tu saurais donner une définition de l'identité ? Qu'est-ce que c'est l'identité pour toi ?
À mon avis, l'identité, c'est ce qui te diffère des autres. C'est ta personnalité.
Soso et Emma ont abordé des différents aspects de l'identité. En parlant avec Madame Mora Messabel, on a remarqué que l'identité est composée de la partie sociale ainsi que la partie personnelle. Et toutes ces deux parties sont également importantes pour la composition de l'identité.
L'identité, elle est à la fois construite à travers nos différentes appartenances et expériences sociales et les contextes qui peuvent activer ces appartenances. Et puis, ce qui vient aussi de moi, entre guillemets, qui fait, enfin, en termes de personnalité, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est que vous, par exemple, la manière dont vous pouvez vous penser à un moment dans un contexte donné, d'une manière individuelle, mais il y a des moments, dans un autre contexte, vous allez vous penser aussi à travers vos appartenances sociales. Et, je précise que vous avez plein d'appartenances sociales. Parce que c'est pour ça que je parle d'identité avec un S souvent, parce qu'on a de multiples appartenances groupales en fait. Ça peut être votre sexe, ça peut être votre nationalité, ça peut être votre statut professionnel, ça peut être là où vous habitez. Enfin, on a plein d'appartenances.
Donc il y a plein de facteurs qui vont construire une identité.
Qui participent en tout cas dans les interactions sociales, qui participent aussi aux expériences sociales auxquelles l'individu est confronté.
Et est-ce que vous pensez que l'identité d'un individu va changer beaucoup au cours de sa vie ? Est-ce qu'il va y avoir une évolution ?
C'est dynamique. Pourquoi ? Parce que, d'une part, la définition de soi, elle est en lien avec les multiples expériences sociales et appartenances de groupe. Les expériences sociales vous impactent aussi du point de vue de la perception de vous-même, des questions d'estime de soi, des questions qui sont liées au soi, tout simplement.
Du coup, c'est quelque chose de complètement normal pour un individu de se mettre des questions sur son identité et sur soi-même au cours de sa vie. Mais ce phénomène psychologique est quelque chose que Soso nous a raconté d'avoir vécu également.
Déjà, le fait de remettre en question sur moi-même, et déjà, ça veut dire que je réfléchis sur comment je suis. Et si je réfléchis, c'est que je suis dans un processus de changement. C'est problématique dans ce que je suis, enfin dans mon identité, donc je vais changer. Ah, ça, je vais garder parce que ça pose aucun problème. Donc, c'est une construction d'identité. Enfin, la remise en question, ça veut dire aussi pour moi, c'est une construction de ton identité. Et ça m'a changé quand même. C'est frustrant, mais c'est une stratégie de survie en même temps.
Et tu penses que le fait que d'avoir des origines étrangères affecte beaucoup ton quotidien et aussi ton identité ?
En Corée, je change ma façon dont je m'habille, je change ma façon de parler, je parle plutôt de manière plus polie, moins freestyle, parce que je connais justement la hiérarchie, la politesse coréenne.
Mais est-ce que c'est toi ? Genre, quand tu changes comme ça en Corée, c'est toi qui, c'est tes pensées, c'est qui tu es, ou c'est seulement pour être avec, comme les autres, je dirais, pour
un peu comme en Corée, quoi. Deuxième, parce que si je me comportais comme je suis vraiment, mais en fait, c'est un peu difficile comme question aussi, parce que je partage double culture. Donc, en Corée, les gens, ils me considèrent comme une Française.
Et ici, tu es considérée comme étrangère.
Voilà. Et du coup, je sais pas comment. Mais du coup, au final, je me dis, en fait, qui je suis ?
Comme l'identité, la santé mentale est un concept qui affecte l'intime. C'est de cette santé qu'on va parler maintenant. Et oui, quand on parle de santé mentale, on parle de soi, de son intérieur, de comment on se sent. On en discute de plus en plus et, comme on l'a vu avec le Covid, la santé mentale fait partie intégrante de la santé. Donc, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. D'ailleurs, l'humain a un besoin important de communication avec les autres humains. On parle aussi de santé sociale, c'est-à-dire la façon dont on se sent par rapport à notre environnement social, donc les gens qui nous entourent et qu'on fréquente. La santé sociale est d'ailleurs une des principales composantes de notre santé. La santé mentale, elle, est déterminée par de nombreux facteurs. On peut notamment citer les facteurs socio-économiques, biologiques ou environnementaux. Donc, pour relier un peu à notre podcast, si d'autres nous voient sous un regard raciste, cela peut être un facteur qui influence notre santé sociale et notre santé mentale.
Mais nous y reviendrons plus en détail plus tard.
Pouh, Antonia, je vois que le sujet de qui je suis et de ce qui me caractérise, c'est énorme. Alors, faisons un petit saut dans le quotidien dans lequel nous vivons tous. Ce monde qui nous entoure n'est toujours pas un monde sans racisme et discrimination, mais nous sommes devenus attentifs.
Peut-être vous connaissez le terme « Black Lives Matter ». C'est l'un des plus grands mouvements transnationaux qui a vu le jour aux États-Unis et qui s'engage aujourd'hui fortement contre la violence et l'encontre des Noirs ou des personnes de couleur.
Moi, je me demande, et je vous demande, c'est quoi le racisme, enfant? Pourquoi les gens veulent-ils être racistes? Et à quel point est-il omniprésent dans notre société? Je vais vous amener faire un petit tour. Heureusement, nous avons une experte dans notre studio, Madame Christine Morin-Messabel. Que signifie le mot racisme dans le domaine scientifique?
Le racisme, c'est une hiérarchisation entre des groupes avec une survalorisation d'un groupe. Il y a des groupes qui sont supérieurs à d'autres. Et par l'essentialisation, justement, il y a une asymétrie. On a des groupes dominants versus des groupes dominés. Le groupe dominé peut être perçu comme une menace s'il veut changer de rapport. C'est-à-dire, on va justifier de ces hiérarchies en disant « mais ces groupes ont des caractéristiques intrinsèques qu'ils sont comme ça ».
Mais cela semble un peu objectif. En fait, qui décide si quelqu'un ou quelque chose est raciste?
En général, la perception, parce que c'est important aussi, c'est pas toute personne, c'est qu'une personne qui a la perception de la discrimination.
Donc, les entre guillemets « races » se voient attribuer des caractéristiques qui sont très exagérées, naturalisées et stéréotypées. Mais qu'est-ce que cela signifie dans la pratique? Soyane, as-tu déjà été confrontée à des personnes qui t'ont attribué des stéréotypes racistes?
En France, c'est vrai que j'ai changé. Par exemple, j'ai fait plus d'attention à mes affaires. Enfin, avant, je n'étais pas du tout attentive sur ça. Je mange aussi parce que j'ai peur qu'on fasse une remarque. Ah, mais ça sent la nourriture, les épices, machin. Enfin, non, j'ai pas envie d'avoir ça. Donc, je change. Mais en même temps, je me dis, si je garde pas, je suis qui, en fait? Et ma communauté asiatique, c'est souvent considéré comme une communauté qui travaille bien, qui est soumise aux règles très, très dociles de travail, etc. Enfin, on n'a pas beaucoup de problèmes. Je pense que ça existe, bien sûr, dans certains domaines. Mais parce que, justement, nos origines sont différentes. Donc, on n'a pas les mêmes problèmes, les mêmes enjeux. Et je peux raconter, par exemple, quand j'ai appris que le Covid était découvert en Chine, la première chose qui m'est venue, c'est que, ah, je vais faire comment? Les gens, ils vont pas me...
Tu as déjà pensé à ça?
Oui, c'était le moment où le Covid n'est même pas arrivé en Europe. Enfin, c'était en fin décembre. Pensez déjà à ça, je vais faire comment? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux sortir? Est-ce que les gens, ils vont me laisser tranquille? Et justement, quelques mois après, le Covid, il est arrivé en France. Et là, c'était un fléau parce que je sortais dans la rue, les gens, ils m'ont regardé. Je ne pouvais même pas tousser. Mes parents, ils m'envoyaient des masques parce qu'ils m'ont dit, bah justement, le Covid, il va arriver en France. Ouais. Et nous, on commence déjà à porter le masque. Donc, en France, je sais qu'on sait qu'il n'y avait pas des masques à ce moment-là. Ouais. Du coup, ils m'envoyaient, mais j'ai dit, maman et papa, je ne peux pas les porter parce que les gens, ils vont me... ils vont m'ennuyer, ils vont m'embêter.
Moi, j'ai l'impression que les gens avoir d'autant plus des préjugés qu'ils ne connaissent pas ou ne savent pas évaluer quelqu'un ou quelque chose. Quelle est donc la force des stéréotypes? Ici, je voulais bien faire appel à Christine Morin-Messabel.
Les stéréotypes, c'est définir des groupes à partir de traits de personnalité et ou de comportement, comme si tous les gens partageaient ces caractéristiques. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'homogénéisation du groupe. Quand vous commencez à dire les Allemands, les Français, vous allez émettre des comportements ou des traits qui vont être généralisés à toute la population. Donc les Français sont sales, ça c'est un stéréotype négatif, mais c'est un stéréotype qui existe au niveau international. Donc si je dis ça, je vais généraliser à tous les Français ces caractéristiques-là. Et donc ça, ces préjugés, ils peuvent être véhiculés à travers les médias, ils sont véhiculés dans l'environnement, donc vous pouvez avoir des dans l'environnement social, ou diffusés à travers les médias au sens large, j'entends. Quand je dis médias, c'est les supports de transmission.
Le racisme se manifeste sous de nombreuses formes et dans de nombreux domaines. Une forme particulièrement grave est le racisme institutionnel ou structurel. Celui-ci est systématiquement ancré dans les lois, les valeurs ou les normes d'une institution. Les personnes subissent l'exclusion, la discrimination ou le dénigrement dans des institutions sociales importantes, comme par exemple dans le système éducatif, sur le marché du travail, sur le marché du logement, ou, très important, la participation politique, ça veut dire par exemple droit de vote ou manque de représentation dans les institutions politiques. À l'opposé, on trouve le racisme ordinaire ou racisme personnel qui s'exprime par exemple dans le racisme quotidien à l'extrémisme de droite par des préjugés ou de la violence. C'est un tas de micro-agressions comme de remarques sur la rue qui sont presque systématiques, très communes, très fréquentes et que les gens subissent tous les jours. Dans ce cas, des individus d'une société se rassemblent en un groupe social plus large afin de diffuser des schémas de pensée, des comportements racistes comme envers les autres. On veut placer une ou des personnes ciblées à l'extérieur de la communauté. Cela semble maintenant très abstrait. Peux-tu peut-être nous donner un exemple de ta vie, Emma?
Attends, je te raconte un truc. Une fois, on avait cours de muscu en classe. Il y avait quatre filles et entre filles, on était côte à côte. C'est pour la première fois que nous quatre, on se voyait. Mais... Puis il y avait une fille qui parlait avec toutes les filles sauf à moi. Elle ne m'a pas calculé du tout. Elle refusait du tout de me regarder ou d'échanger les paroles avec moi. À un moment, je voulais lui parler, mais finalement, elle me voyait bizarrement. Ma maman, j'ai pas insisté, pas, j'ai laissé. Et puis, quelques temps après, il y avait une autre fille qui est venue et elle parlait beaucoup avec la fille qui vient de venir. Je me suis demandé, elle m'évite, mais pas, pourquoi elle voulait pas me parler. Et après, bah, je me suis dit, peut-être que c'est à cause de la couleur de ma peau, je sais pas, j'étais la seule, j'étais la seule noire parmi toutes les filles. Une simple hypothèse, mais quand même
c'est...
ça m'a fait quelque chose.
Et quelles sont les expériences pour toi, Soyeon?
Enfin, tu sors aux yeux des gens et au bout d'un moment, en fait, c'était fatigant, ça m'épuisait dans ma vie quotidienne parce que je marche, bah, les gens ils m'insultent, je marche, je fais un truc, les gens ils me font des remarques. Enfin, tout le temps dans la vie quotidienne et c'est épuisant. Ça t'arrive une fois dans la journée, ok, tu passes à autre chose, mais ça t'arrive 5 fois, 10 fois, non.
Dirais-tu qu'il y a eu des situations qui t'ont particulièrement marqué?
Il y avait des amis coréens qui sont venus me voir à Lyon. Et du coup, on était vraiment un groupe coréen avec un mec, le reste que des filles. Et on était sur les quais de Rhône, vers côté Guillotière. Il y a pas mal de buvettes, des bateaux, etc. Et là, il y a un mec qui s'est présenté, qui se ramène vraiment devant moi. D'un coup, il a couru. Il pointe, il doit vers moi. Il me dit « Ah les gars, cette asiatique, elle est à moi. » Je pense qu'il savait pas que je comprenais la langue parce que je parlais coréen, j'étais avec mes amis coréens. Et du coup, je le regarde, je fais « Qu'est-ce que t'as dit ?» Là, il commence à trembler, il dit « Ah, mais je savais pas que t'étais française, je suis vraiment désolée, nanana. » Je lui dis « même si j'ai une tête asiatique, même si j'ai des origines asiatiques, ça ne veut rien dire en fait en France. Et j'ai dit, bah, ça ne veut pas que je ne suis pas française, tu ne me connais pas. Et il commence à s'excuser, mais il était bourré. Du coup, il n'y avait pas de cohérence dans ce qu'il disait. Il y avait ses potes qui sont venus me voir. Y en a une qui était bourrée aussi. Et elle se bridait les yeux et me dit, mais si je fais ça, c'est grave. J'ai dit, toi, rentre. Bah, ce genre de choses, c'est très à la fois sexiste, c'est racisme. Et bah du coup, bah voilà, et il y avait un mec qui m'a frappé aussi dans la rue. C'était
il
à Paris.
Il m'a frappé ?
Oui, il m'a frappé.
C'était la nuit, c'était la
journée. Ah non, dans la journée. C'était vers 15h. Même pas, c'était même pas un quartier qui craint. Enfin, c'était vraiment un quartier où il y avait des habitants, il y avait plein de bars, etc. En gros, si je vous explique ce qui s'était passé, eh ben, c'était, on marchait dans la rue avec une pote coréenne qui parlait pas français. Et ce mec en question, il nous suivait pendant longtemps, super longtemps. Alors, c'était pas un garçon, c'était un papy, une personne âgée qui était très grand, costaud en fait, et il était très insistant, etc. Et il nous faisait des remarques racistes, sexistes, tout en fait, tout. Il balançait tout, la haine, ce qu'il avait, rigolait, il nous rabaissait. Oui, vous, de toute façon, vous êtes des putes, je suis sûre que t'as un vagin hyper serré, enfin, des trucs, mais c'est inadmissible, je suis pas là pour ça. J'étais très énervée et en fait, au bout d'un moment, en fait, la cinquième année, je me suis dit, en fait, je me laisse pas faire. Et les gens, ils me disent tout le temps, mais réponds pas, Soso, ça sert à rien, etc. Mais je dis, bon, c'est vrai, mais si je réponds pas, si je réagis pas, les gens, ils vont continuer parce qu'ils savent pas. Et du coup, j'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, partez. Je vous dis gentiment, partez. Il me dit, non. Il nous suit. Il me regarde, je le regarde, et là, je dis, si tu pars pas, je vais te répondre. Il me dit, fais-le. Et là, du coup, on s'est échangé des insultes, etc. Et là, du coup, il avait un sac dans lequel il y avait un vieux PC vraiment tout épais. Et là, il commençait à balancer le sac sur moi. Et en fait, il voulait viser mon visage, mais sauf que j'ai vu qu'il m'arrivait. J'étais tellement énervée que même si je me dis, dans ma tête, en fait, si tu me plantes un couteau, je vais te frapper. Là, on va voir la justice. Je ne sais pas comment la justice elle va réagir, mais tu vas prendre cher. Je savais que j'allais perdre. Je me suis retournée, sauf que c'est tombé sur mon cou. Du coup, j'avais un gros bleu. En gros, c'était vraiment un cas extrême.
Ces histoires sont choquantes et font partie du quotidien des nombreuses personnes dans le monde. Car le racisme naît dans la tête. Madame Christine Morin-Messabel, pourquoi les gens veulent-ils discriminer les autres ?
Il y a des théories sur l'explication pourquoi les gens ont des préjugés, quoi. Mmh. Par exemple, c'est la théorie de la frustration-agression. C'est-à-dire que quand je ne vais pas bien, les gens qui ont l'estime de soi faible ont tendance à s'en prendre aux autres et notamment aux groupes sociaux les plus faibles. Donc là, ça peut être expliqué, mais il y a d'autres encore explications qui sont liées justement à la théorie de l'identité sociale, par exemple, qui est « je suis dans un groupe, je veux avoir une identité sociale positive, donc je valorise mon groupe, je vais me comparer à d'autres groupes, et si je suis dans un contexte de conflit intergroupe, voilà, et ben je vais à travers les stéréotypes et dévaloriser l'autre groupe. » Vous avez la théorie des conflits réels de Muzaffer Sherif qui est très intéressante. Lui qui dit qu'effectivement la pensée à préjugés, elle émerge dans les dynamiques de groupe quand il y a des compétitions entre groupes. Alors ça peut être compétition symbolique, c'est-à-dire il y a une compétition pour les ressources, pour l'argent, pour le pouvoir, etc. Mais ça va faire activer des préjugés intergroupes. Puis après, on a les théories qu'on appelle la dominance sociale et de la justification du système, qui elles sont à des niveaux idéologiques. C'est-à-dire l'explication, c'est la hiérarchisation entre groupes est inhérente donc, aux interactions humaines. Et il y a toujours une hiérarchisation de groupes dominants et dominés. Mais les dominants visent à maintenir leur domination. C'est-à-dire que les dominants ont tendance souvent à justifier individuellement des inégalités sociales. C'est-à-dire ils vont dire non mais c'est en l'égalité on peut pas y arriver, c'est des échelles. Non mais tout le monde n'est pas égaux en fait. Vous avez dû entendre ça, des gens qui disent mais de toute façon on sera jamais tous égaux. Vous voyez, et en fait c'est quand on est souvent dans une position dominante qu'on dit ça. évidemment que si vous êtes affecté par une agression, par exemple, évidemment que oui, ça va vous impacter parce que eh bien, le stress, l'angoisse, la peur, et ça va donc forcément avoir des conséquences psychologiques.
Et c'est justement ces conséquences psychologiques, mais aussi mentales, qu'on va étudier maintenant. En fait, on s'est d'abord demandé, est-ce que après avoir vécu une expérience discriminatoire raciste, le comportement d'une personne dans sa vie quotidienne va changer? Du coup, on a d'abord demandé à Soyane si les petites choses qui font son quotidien ont pris une autre tournure, est-ce qu'elles ont changé par rapport à avant d'avoir vécu des expériences discriminatoires racistes?
Et ben du coup, bah, ça m'a beaucoup changé. C'est vrai que, par exemple, la façon dont je parle, parce que la langue, ça montre aussi d'où on vient. Si j'ai un accent, bah, par exemple, ils vont bah, me faire une remarque. Même ma façon de m'habiller. Et c'est vrai qu'en Corée, par exemple, je porte pas de décolleté. En France, je porte pas de mini-jeux, par exemple, parce que je sais que les gens ils vont me regarder encore.
Il faut dire qu'à vrai dire, on ne pensait pas que ça allait aussi loin dans le changement de routine et de petites choses de la vie quotidienne. Donc, pour avoir un point de vue un peu extérieur, on a demandé à notre chère spécialiste en psychologie sociale ce qu'elle en pensait.
Est-ce que vous pensez aussi que le fait d'avoir vécu des expériences racistes peut aussi avoir un changement sur l'attitude visible d'une personne? Comment elle se comporte avec les autres?
Oui. Parce que si quelqu'un est victime de préjugés, par exemple, ça peut effectivement affecter son comportement. Oui, évidemment, parce que la personne a conscience qu'elle est, victime de préjugés. Et du coup, ça peut affecter les interactions qu'elle peut avoir avec d'autres.
Et ça, le fait que ça puisse impacter notre rapport aux autres et la façon dont on se comporte dans un groupe, ben, ça nous a vachement rappelé ce que nous disait Emma.
Ouais, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Mais c'est par rapport aux comportements et habitudes qui seront affectés au fil du temps. Soit je vais devenir... comment on appelle la personne qui s'enferme en lui-même là.
Introverti.
Ouais, introverti, comme ça. Genre, quand on est en groupe, moi, j'ose pas trop rapprocher les gens. J'ai tendance à m'enfermer entre moi-même, mais... Parce qu'à chaque fois, tu réfléchis, genre, t'as toujours peur de se faire rejeter et que t'as peur de faire un pas pour s'ouvrir aux autres.
Donc ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir une double conséquence au fait d'avoir vécu des discriminations racistes. Parce que d'un côté, la vie routinière et donc intime d'une personne est touchée, mais de l'autre côté, ça peut aussi avoir un impact sur le rapport aux autres dans la sphère sociale. Mais c'est pas la seule conséquence qu'il peut y avoir. Par exemple, Soyane, elle se pose plein de questions sur elle, sur qui elle est et sur son identité.
Et aussi, il y a une remise en question sur mon identité, mais c'était vraiment un cas spécifique qui m'a fait vraiment réfléchir sur qui je suis. Je suis quoi? Je suis qui dans cette société française qui est totalement différente de la mienne? C'est-à-dire que je me considère comme personne qui est intégrée quand même à la société française parce que je sais maîtriser la langue quand même. Mais d'un côté, si la population française donc, qui n'accepte pas moi-même, j'ai un blocage entre moi et entre cette population, donc les Français. Au final, je suis toujours étrangère.
Mais attention, c'est vraiment à nuancer et c'est vraiment propre à chacun. Par exemple, Emma, elle nous disait...
Je parle pas trop de changement d'identité.
Donc chacun réagit un peu à sa manière. Et c'est aussi ce que nous a confirmé Christine Morin-Messabelle.
Ce qui est important, c'est de prendre en compte aussi la perception que la personne en a.
Puis elle nous parle aussi de stress et de comment une personne peut réagir face à ça.
Mais pour percevoir, alors ça c'est important, un événement comme étant une source potentielle de stress, il est nécessaire que l'individu estime si la situation est problématique, sa portée, et s'il pense avoir les ressources pour y faire face. Et s'il pense avoir les ressources pour y faire face, c'est ce qu'on appelle le coping, et qu'il a du soutien social, alors ça va réguler ce stress et cette situation de discrimination.
Ce que je peux dire, c'est que faut bien savoir choisir son entourage. Est-ce que c'est à partir de ton entourage que tu pourras évoluer et atteindre ton objectif? Parce que si tu sais pas choisir ton entourage, tu vas te perdre, tu vas abandonner.
Et d'ailleurs, la santé sociale, c'est une des premières composantes de notre santé en général. C'est-à-dire que si on est bien entouré, ça peut être plus facile que si on est tout seul ou si on est mal accompagné. Mais bon, ça, je vous apprends rien de nouveau. Donc là, on a beaucoup parlé de comment le racisme peut affecter le rapport aux autres. Mais en réalité, ça peut aussi affecter l'intime, et donc la santé mentale. C'est pourquoi on écoute Soyane qui nous livre son témoignage.
Au bout d'un moment, j'ai commencé à être un peu malade. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'était vraiment, je ressentais l'angoisse que j'ai jamais connue dans ma vie. Du coup, ma quatrième année en France, je suis rentrée en Corée du Sud pour voir ma famille, etc. Et là, je fais un bilan médical. Et là, mon médecin, il me dit, mais on sent que ton corps, il est tendu. Je ne sais pas pourquoi, mais ton corps, il est tendu. On voit un changement. Même ma mère, elle m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai dit, maman, vu que je suis étrangère, les gens, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui m'embête. Ma mère, elle m'a dit toujours, elle m'a éduquée de façon très relaxe. Non, mais c'est normal parce que t'es différente. Même en Corée, s'il y a des gens, des étrangers qui arrivent, tu vas forcément les regarder. Enfin, tu vas avoir des idées. Enfin, je sais pas, c'est normal et accepte-les. Et là, du coup, j'accepte et tout. L'été dernier, j'ai décidé d'aller voir mon psychiatre parce que j'avais déjà un problème de concentration mais aussi j'ai vraiment senti que je voulais plus sortir. Et déjà quand j'allais sortir, c'était vraiment la charge mentale. Je me préparais déjà dans ma tête, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire. Du coup, j'ai fait plein de tests chez mon psychiatre. Et il m'a dit, t'es angoissée, t'es anxieuse. Du coup, il m'a prescrit des médicaments. Ça, j'ai pas parlé d'autres gens, mais c'est pas grave, je suis là pour dire ça.
Bon, je pense qu'il y a rien à rajouter. Ça peut vraiment aller jusqu'à affecter le plus profondément une personne et la manière dont elle va vivre sa vie. Mais heureusement, c'est pas la même chose pour tout le monde, et c'est aussi ce que nous confirme la spécialiste.
Les individus ne réagissent pas de façon identique à ces situations-là, ça c'est important. Et donc là, la discrimination par exemple aura des répercussions importantes chez certains, les conduisant à des épisodes dépressifs.
Ou anxieux, comme chez Soyane.
Et alors que d'autres arriveront à surmonter.
Et pour aller sur des notes plus positives, en effet c'est un peu différent pour Emma.
Et tu penses que ça a affecté aussi ta santé mentale, ces expériences?
Il se peut, hein. Il se peut. Ouais. Là, j'ai encore fait 3 mois. Jusque-là, je pense que ça va.
Ouais.
Mais après...
J'espère ouais. Que ça se reproduira pas trop.
Donc, pour se mettre un peu les idées au clair, on peut dire que le racisme et les expériences discriminatoires vécues ont un impact énorme sur tout un ensemble de facteurs de la vie quotidienne. Ils affectent notamment le comportement d'une personne, les petites choses de sa routine. Ils peuvent emmener à se poser des questions sur son identité, qui est-ce qu'on est, mais aussi ils peuvent impacter la santé sociale, donc comment on va se comporter avec les autres, et finalement, ils peuvent avoir un impact sur notre santé mentale, notre intime, comment on se sent. Et donc, il y a tout un ensemble de facteurs dans la vie d'une personne qui sont touchés par le racisme.
Quand on leur a demandé qu'est-ce qu'elles faisaient pour lutter contre leur discrimination à premier égard, une chose est beaucoup ressortie. En fait, elles nous ont dit qu'elles se focalisaient beaucoup sur la fac, qui leur aidait à avoir un objectif précis et qui les aidait à mieux comprendre la société.
Moi, je voulais encore demander ce que t'a aidé de surmonter ces expériences et le racisme que tu as vécu.
Mes études. Déjà mes études, parce que mes études m'ont beaucoup aidé à me déconstruire.
Et pour Emma, c'était plutôt...
Par rapport à mon objectif, j'ai décidé d'étudier ici, je vais me focaliser là-dessus.
Donc l'université, qu'on fréquente à des occasions très récurrentes, est un bon lieu sur lequel se focaliser. Mais tous les jours, on est aussi avec des gens, et pour Emma, c'était quelque chose de très important.
Les gens de mon entourage sont tous studieux. On a le même objectif, obtenir le master et après pouvoir acquérir quelques expériences en France. Et réciprocité dans la veille, quoi.
Tu penses que dans ta construction, tu préférais avoir des gens
qui ont vécu la même chose que moi aussi.
Donc c'est bien d'avoir un objectif et pour y arriver, c'est bien d'être avec les bonnes personnes. On revient toujours à la question sociale. Mais ça nous amène à penser à plus grande échelle. Qu'est-ce qu'on peut faire contre les discriminations, contre les préjugés?
Je me demande pourquoi et comment, et du coup j'essaie de comprendre, et du coup je me demande encore, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus?
D'abord, quand on est face à des propos ou des réactions qu'on trouve inacceptables, on peut réagir. Mais attention.
Je pourrais pas prôner, oui, réagissez-vous, il faut répondre, etc. Parce qu'il y a toujours les risques physiques. Enfin, il y a toujours une sorte de violence. Donc je peux pas vous prôner ça, mais déjà réagissez dans les réseaux ou parlez-en à votre entourage, c'est déjà très bien.
Et ce qui peut aider à faire face, c'est aussi
d'abord la rencontre avec d'autres individus qui ont vécu la même chose. Et ça, c'est important parce que alors ça favorise le partage social. Et donc, du coup, le fait de parler avec des gens qui ont vécu la même chose, c'est assez important. C'est des groupes de parole, hein, mais qui ont vécu, et le partage est important, justement, en termes de soutien social.
Et oui, en parler haut que c'est important. C'est en dénonçant d'abord qu'on va pouvoir changer les choses. Mais c'est aussi par le contact humain qu'on peut changer ce que les gens pensent les uns des autres. On connaît beaucoup de vieux, ou de moins vieux d'ailleurs, qui expliquent par des longs discours ce qu'ils ont vu à la télé, sans jamais avoir été en contact avec les personnes desquelles ils parlent. Donc si on fait se rencontrer les gens, ils se rendront plus compte de la réalité. Et en nous parlant de cette mise en relation des personnes très différentes qui peuvent avoir des préjugés sur les autres, la scientifique nous parle d'hypothèses de contact. En effet, il y a des personnes
qui ne se rencontrent pas et qui ont des préjugés. Et du coup, c'est dans l'hypothèse de contact intergroupe qu'on va pouvoir... et dans un esprit de coopération, j'allais dire. C'est très technique au niveau comportemental, mais il faut le faire avec ce qu'on appelle un but supraordonné, c'est-à-dire avoir envie de mener à bien quelque chose. Voilà. Plus d'interactions interpersonnelles, plus de rencontres. Et la rencontre permet justement de recréer parfois d'autres appartenances communes, justement. Donc c'est important, cette question d'hypothèse de contact, quoi.
Ah oui, le relationnel fait souvent bouger les choses. Par une mise en contact, deux personnes vont souvent mettre de côté leurs préjugés. Mais c'est pas le seul moyen. Alors comment on peut lutter concrètement contre le racisme, les préjugés et les discriminations ?
Il y a du travail, mais c'est par l'éducation dès l'école maternelle. C'est l'empathie, c'est-à-dire apprendre cognitivement et émotionnellement à prendre en compte l'autre. Et puis aussi peut-être travailler d'une manière explicite sur ces questions de stéréotypes, préjugés, discrimination à l'école. C'est pouvoir me mettre à la place de l'autre. L'autre, ce qu'il ressent, c'est aussi moi ce que je pourrais ressentir s'il était dans cette situation-là. On travaille beaucoup avec des albums de jeunesse, avec les jeunes enfants sur les questions des préjugés, de la discrimination. Des petits romans, des albums qui racontent des histoires de personnes qui ont été victimes de racisme, par exemple. À partir de là, ça fait évoluer et ça permet de travailler justement sur cette perception de l'autre qui n'est pas comme moi. Parce que c'est ça, hein, le truc, ça crée du nous-eux. Du coup, là, c'est travailler sur l'autre qui n'est pas comme moi, d'une part, mais qui est aussi comme moi. Mmh. C'est-à-dire le jeu entre la différence et la similitude. Ouais. Dans l'autre, il y a aussi un peu de moi, quoi.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que l'éducation, c'est quelque chose d'hyper important. Si on veut changer la société, on commence par changer l'éducation. Alors, c'est pour ça que c'est important de sensibiliser dès la crèche, dès la maternelle, les enfants, pour qu'ensuite ces changements se retrouvent sur la société et sur nos fonctionnements.
Mais il y a aussi d'autres moyens.
Après, il y a les mouvements sociaux, hein, comme Black Lives Matter, par exemple, c'est-à-dire de faire prendre conscience qu'il y a un problème quand même. Mmh. Et puis, il y a aussi tout ce qui est communication et loi, parce que les lois anti-discrimination, c'est très important. Là, du coup, vous impactez les comportements éventuellement discriminants. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui peuvent très bien, du coup, être obligés de ne pas discriminer dans le travail. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de préjugés. Hein. Ouais. Et donc, ça, c'est le problème. C'est pour ça que je parle d'éducation. C'est-à-dire, effectivement, modifier les comportements, mais travailler aussi sur les attitudes. Et voilà. Et puis, c'est la question du pouvoir. C'est-à-dire aller vers des politiques plus pro-égalitaires.
Donc, comme on l'a vu dans notre podcast, le racisme, c'est quelque chose de très complexe. Il n'y a pas une solution miracle pour lutter contre. On a pu citer l'éducation, les mouvements sociaux, les lois, la politique. Et oui, la politique, elle est partout d'ailleurs. Et elle s'insère dans toutes les sphères de la société. Et donc, ça sonne un peu cliché, mais par la petite comme la grande échelle, on peut essayer de changer les choses. Et autre chose qui est important à l'intérieur, c'est de ne pas perdre espoir.
Il y a des hauts et des bas. Des fois, tu tombes sur des trucs inattendus et tout. Donc, il ne faut pas trop avoir un préjugé.
Ne vous posez pas de questions. Enfin, mangez ce que vous voulez. C'est ce que je fais en ce moment. Habillez-vous comme vous voulez. Enfin, c'est ce que je fais en ce moment. Et maquillez-vous comme vous voulez. Enfin, parce que le monde, il change. Et on est en pleine évolution de développement, changement. Donc, à un moment donné, on va être accepté. Même si en 2021, on n'est pas accepté, on va nous accepter. Quoi. Enfin, la différence. Même si c'est difficile.
Même si ces sujets n'ont rien de simple, c'est donc crucial de ne pas perdre espoir. La société change peu à peu et c'est important de se mobiliser, mais aussi de donner la parole aux victimes sur des plateformes comme ici où elles peuvent avoir une voix, mais aussi dans notre vie de tous les jours.
Qu'avons-nous appris aujourd'hui ? Résumons encore une fois nos pensées. Le racisme, l'identité et la santé mentale sont tous en soi très complexes et étroitement liés. L'identité est un concept qui change beaucoup et qui est toujours en cours de développement. Les appartenances sociales ainsi que des autres facteurs peuvent la changer, alors qu'on en est traité de façon raciste, on va vouloir changer notre identité pour être accepté. Le racisme est une idéologie qui hiérarchise les personnes, ce qui entraîne un fort désavantage et une discrimination. Pour pouvoir lutter contre le racisme dans notre société, nous devons prendre conscience à quel point il est déjà devenu quotidien. Et le racisme peut amener à se poser des questions sur qui on est. Il peut aussi affecter notre rapport aux autres et à comment on se sent. Le racisme, c'est donc un facteur extérieur qui peut toucher très profondément l'intérieur d'une personne. Même si ces questions sont très complexes, on peut heureusement lutter contre le racisme à grand comme à petite échelle et dans notre vie dans tous les jours. Il est important de garder espoir. Things are on the way to change. Merci au Studierendenwerk Freiburg d'avoir rendu possible le projet du blog Voix contre le racisme et populisme et de nous avoir donné l'occasion de travailler ensemble au-delà des frontières. Merci à Mara Ganem pour l'encadrement du groupe de podcasting. Et un grand merci à nos invités, Madame Christine Morin-Messabel, Emma et Suyane. Vous avez rendu ce podcast vivant, vous nous avez confié vos connaissances et expériences et vous avez ainsi fait un grand pas dans la lutte contre le racisme. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés.